Allez, le mot de la semaine, c'est un mot qui vous a beaucoup occupé, en tout cas qui m'a beaucoup occupé. C'est ministre de l'économie, c'est pas de ma faute, cette chanson de Brigitte Fontaine. Depuis quelques jours, c'est le sujet de tension numéro un au sein du gouvernement. Alors ici, on fait pas de politique, on s'en fout. Mais le déficit, notre perte de crédibilité, bientôt, j'espère, notre dégradation. Bruno Le Maire, écrivain, dit que c'est la faute de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'autre. Emmanuel Macron dit à Bruno Le Maire, mais c'est ta faute, t'es là depuis 7 ans. Bruno Le Maire lui dit, mais oui, mais toi, t'es là depuis 10 ans. Alors d'abord, première question, Anne-Sophie Alsif, pour amener un peu de calme dans cette situation, et ça, vous savez le faire. La situation financière de la France est-elle préoccupante?
Alors, la situation de la France n'est pas préoccupante au moment où on se parle, mais ce qui est plus préoccupant, c'est la trajectoire, et surtout notre trajectoire par rapport à nos partenaires européens. C'est vrai que ce déficit, hein, en termes de crédibilité, hein, et les prévisions de croissance pour 2023 étaient à 1,4 hein, dans le projet de loi de finances, donc c'était vraiment une hypothèse très très haute. En général, on a 0,2-3 points au-dessus du consensus. Nous, par exemple, on était à 0,8, donc là, c'était quand même une prévision très haute, qui a tout de suite été revue à la baisse, une fois le projet de loi de finances déjà voté. Donc c'est vrai que 2 mois après, ça fait quand même un petit peu mauvais effet d'avoir revu à la baisse cette prévision de 1,4 à 1%. Pour le déficit, hein, en effet, il y a eu un ralentissement de la croissance plus importante qu'anticipé, notamment en effet en raison de la conjoncture internationale, de la récession en Allemagne, hein, premier client et fournisseur, et aussi hein, d'un ralentissement beaucoup plus important de l'investissement en France en raison de l'augmentation des taux d'intérêt, okay, donc, qui n'avait pas forcément été anticipé. Donc ça veut dire moins de recettes fiscales, d'où ce déficit plus important.
Et toujours autant de dépenses publiques.
Tout à fait. Mais on voit que quand même dans la trajectoire des dépenses publiques, il y a plutôt une maîtrise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse, mais en tout cas, voilà. Maîtrise, en tout cas, il n'y a pas une explosion par rapport aux recettes. Je veux dire, le déficit, c'est vraiment moins de recettes. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Donc de dire, voilà, je ne savais pas, etc. C'est vrai que déjà, quand on choisit des scénarios de prévision de croissance aussi optimistes par rapport au consensus, c'est sûr qu'il y a quand même un risque qui est important.
Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'en filigrane, ce qu'on entend, c'est ils donnent des chiffres bidons, quoi.
Alors bon, normalement, non, quand même, on espère pas.
Non, mais vous pensez qu'ils croyaient vraiment que c'était...
C'est normal que le gouvernement soit dans ce rôle d'avoir, je vous dis, toujours une prévision optimiste. Ça a été le cas, vous regardez historiquement, mais le problème, c'est dans la proportion.
Bah oui.
Non, parce que par exemple le Covid, hein, on a vu après le Covid, des
ça,
fois quand vous dites voilà, on va avoir de la croissance.
Non, ça je comprends parce qu'il y a un événement extraordinaire.
Mais c'est toujours 0,2, 0,3 points. On n'est pas là, on est vraiment à du 0,6.
Donc c'est volontaire, ça peut pas être.
C'était pas forcément volontaire. Je pense que vraiment
donc,
en concernant.
Donc c'est de l'incompétence.
C'est pas de l'incompétence non plus. Il faut pas non plus. Bah,
si c'est pas de
l'incompétence. À sa place,
non, si c'est pas de l'incompétence, c'est pas de la manipulation. Comment on peut se planter alors que
je pense qu'il y a eu deux éléments. C'est vrai qu'on fait des prévisions et on était. Disposition,
bah oui.
Parce que c'est ce qu'on avait vu.
Ils ont qu'à lire ce que disent les autres économistes.
C'est sûr qu'au niveau du consensus, c'était assez surprenant d'avoir une prévision aussi optimiste. Après, à l'heure des charges, c'est vrai que d'avoir une récession en Allemagne, c'était prévu aussi importante et aussi avec le fameux gel de 60 milliards, donc vraiment de tuer, hein, on va dire, la demande. Là, c'est vrai que c'était quand même plus important que prévu. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est vraiment le ralentissement de l'investissement, notamment des entreprises. Quand on voit en termes de contribution, on voit que depuis le Covid, on était quand même resté sur un plateau. Là, on a vraiment une chute beaucoup plus importante avec la hausse des taux, avec un taux d'épargne qui reste quand même très élevé à 17%. C'est-à-dire que même avec les prévisions de baisse d'inflation, les ménages consomment, mais continuent d'épargner et l'investissement des entreprises s'effondre alors qu'on est dépendant à 95% du système bancaire. Donc, c'est vraiment ces raisons qui ont vraiment bloqué le gouvernement.
Bon, donc vous savez qu'on va l'annoncer, Bruno Le Maire va partir et il y a déjà une rumeur. Jean-Marc Daniel, ministre de l'économie, il arrive. Il voit la situation de la France. Alors, préoccupante dans sa trajectoire. Moi, je dis déjà pas que dans sa trajectoire, parce que quand on a 5,5% de déficit et qu'on prévoit 5,1, c'est déjà une catastrophe. Que fait Jean-Marc Daniel, ministre de l'économie?
Alors Jean-Marc Daniel, vous savez comment il fait, il raconte des histoires, il cite pas tout de suite Cicéron, mais il cite quand même alors Louis XIII, la dernière fois qu'on a débattu, vous m'avez parlé de Louis XIII, donc il va voir Macron et il lui dit la même chose que le baron Louis à Louis-Philippe, vous voulez que je fasse de la bonne finance, mais faites une bonne politique, donc je ne ferai de la bonne finance, ministre des Finances, que si il fait une bonne politique, parce qu'on a quand
même... Vous dédouanez Bruno Le Maire, donc vous dites
non,
que c'est de la faute d'Emmanuel Macron.
Non, mais je pense quand même que nos dirigeants, quels qu'ils soient, ils sont solidaires. Je les ai surnommés les Luc et Luc de la dépense publique. Ils dépensent, ils dégainent la dépense publique plus vite que leur ombre. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, paf, ils dépensent.
Donc vous, ministre de l'économie, vous faites quoi?
Alors, je pense d'abord qu'il faut avoir un objectif clair, qui est un objectif basé sur le vrai problème de l'économie française, c'est-à-dire que c'est une économie qui vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire, je maintiens, le véritable problème de l'économie française, c'est plus encore que son déficit budgétaire, c'est son déficit extérieur. On est en train de devenir un pays détenu, sachant que nous sommes un pays vieux. Donc on devrait dégager de l'épargne. À 17% de taux d'épargne, mais c'est pas assez. Je rappelle quand même que le taux d'épargne dans les années des 30 Glorieuses était entre 25 et 20% les plus mauvaises années. On nous parle de Georges Pompidou avec émotion. Les 5 années de Georges Pompidou, on n'est jamais descendu en dessous de 25% de taux d'épargne. Avec une croissance qui était
On n'avait peut-être pas un système social aussi généreux que celui qu'on a aujourd'hui.
Oui, non, mais le taux d'épargne, globalement. Et donc
vous faites quoi? Moi, ce que je veux savoir, c'est...
Je fais trois choses très simples. La première, c'est que je baisse effectivement les dépenses publiques et je touche pas aux impôts des entreprises. Parce qu'on l'a dit, effectivement, on a besoin d'investissement. Et il faut savoir que chaque fois qu'on augmente les impôts des entreprises, on baisse la demande des entreprises, on baisse la demande d'investissement, on baisse les profits qui sont les investissements de demain. Bon. La deuxième chose...
Comment réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire tout le monde dans la rue, vous en foutez?
Il y a un moment où il faut savoir gouverner. C'est gouverner, c'est quand même là aussi. Encore une fois, je rappelle qu'en 1983, on a baissé le pouvoir d'achat des Français et on a ponctionné davantage sur les Français qu'on ne leur avait donné en 81.
Réduction des dépenses publiques.
Des dépenses publiques. Et dans les éléments de réduction des dépenses publiques, on nous parle de l'emploi à vie dans la fonction publique, mais qu'éventuellement, il pourrait y avoir des licenciements. Je pense qu'il faut amorcer tout de suite l'idée d'une commission de la hache. C'est-à-dire commencer à partir de l'idée... Macron a été élu en disant qu'il allait supprimer 5 000 emplois de fonctionnaires. Il faut amorcer
la décrue. Donc ça, c'est le 1, le 2.
Mais le deuxième élément, je fais un élément, une situation qui est une situation de révision du patrimoine public. C'est-à-dire que notre ministre dit, vous savez, on va régler une partie de nos problèmes en réduisant nos implantations immobilières. On a d'ailleurs vendu 280 millions d'euros de biens immobiliers. 280 millions d'euros, c'est rien. C'est 3 000 milliards de dettes. Tout ça. En revanche, l'État est propriétaire d'entreprises. Donc, je rappelle que la loi Pacte prévoit qu'on privatise.
Donc, privatisation.
Privatisation massive. Et troisième élément, j'utilise le problème de la contrainte environnementale pour augmenter les impôts sur les ménages, et singulièrement les impôts au travers d'une taxe carbone.
D'accord. Et à deux donc, ça, c'est la révolution. Hein. Vous avez c'est les gilets jaunes, tout ça.
Vous me demandez ce que je fais.
Non, mais je suis d'accord. Vous dites à votre copain ministre de l'Intérieur, toi, tu te démerdes avec le...
Oui, le problème, c'est qu'avec votre raisonnement, on ne fait jamais rien.
Non, moi, je n'ai rien dit. Moi, ce n'est pas mon raisonnement.
C'est la révolution, on ne fait jamais rien.
Moi, je suis d'accord avec vous. Ne dites pas ça.
Sinon, c'est le discours à la Chirac. Chirac, quand on lui dit, vous avez parlé de cagnotte et tout ça, il dit...
Écoutez, je suis d'accord, moi.
Le discours de Chirac, pour justifier son discours sur la cagnotte, c'était de dire, quand il y a une crise, il faut dépenser plus pour soutenir la demande. Et en revanche, quand ça va mieux... Les Français s'attendent à ce qu'on leur...
La prochaine ministre du budget veut vous répondre.
On va répondre quand même sur les trois points. On est d'accord que la problématique, c'est trop de déficit et donc la France qui est trop endettée. Pour répondre à votre question des déséquilibres, on est dans une zone monétaire. Donc le problème, c'est qu'en effet, nous, on est en déficit extérieur, mais ça vous a pas échappé que d'autres ne le sont pas.
Oui.
Vous le savez, la balance des paiements est à l'équilibre. Donc le problème de ces déficits commerciaux, c'est au niveau plus européen qu'au niveau seulement français. On peut faire quelque chose.
Juste pour finir,
on a quand même une Europe du Nord qui est énormément en excédent, d'ailleurs plus de souvent 8% du PIB.
C'est pas nous.
Non, mais on est dans la même zone monétaire. Quand vous regardez,
ils sont pas solidaires.
Vous connaissez Mundell, vous l'avez lu. C'est un problème quand vous regardez aux États-Unis qui est un État fédéral, vous n'avez pas les mêmes problématiques. Donc on peut pas. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour réindustrialiser, etc. Il y a pas de sujet. Mais ce sujet-là, c'est pas que du franco-français. C'est au niveau aussi européen ayant la même monnaie que ça se règle par rapport à nos excédents. Donc juste de dire et juste pour finir, à mon sens, le grand problème justement de la croissance française, c'est que nous, on est beaucoup moins diversifiés, très dépendants de la consommation. Et donc là, je reviens à votre deuxième point où vous dites, je vais couper massivement les dépenses. On est d'accord que notre problématique du début, c'est on est trop dépendant de l'extérieur, on a beaucoup de déficits, on a beaucoup de dettes. On rappelle que quand même, en économie, vous êtes d'accord, le meilleur moyen de se désendetter, c'est d'avoir de la croissance économique. Que fait la France, parce qu'on est très dépendant de la consommation par rapport aux pays du Nord qui sont plus dépendants du commerce extérieur, c'est justement de garder une certaine consommation, ce qui nous a permis l'année dernière de ne pas être en récession. solutions et d'avoir le taux de croissance. Non, c'est pas vrai.
Juste, financé par le déficit.
Laisse-moi finir. C'est pas le cas. On a un des taux de crédit. Non, pas du tout. Donc ça, c'est le but au niveau de la consommation. Et là, vous dites, on va baisser massivement les dépenses publiques. Vous avez regardé la note de l'INSEE du mois de juillet. On est dans un des systèmes les moins inégalitaires au monde de redistribution. Et si on coupe massivement les dépenses publiques, soyons clairs, c'est du revenu des Français en moins. C'est pas.
D'accord. Mais on peut pas continuer à dire ça et ne rien faire.
Non, parce que en faisant
ça, qu'on avance.
Non, mais juste pour finir, en faisant ça, vous coupez donc le principal moteur de la croissance, qui est la consommation, qui nous a permis de ne pas être en récession.
D'accord, mais c'est et pas la... grave. Si, peut-être qu'il faut passer par un ou deux ans de récession.
Non, mais la récession, c'est parce que je rappelle que le but, c'est de baisser le déficit public. On est tout à fait d'accord. Ouais. Et la croissance économique,
mais
c'est le mieux pour baisser le déficit public. Non, quand on est en récession, vous avez beaucoup plus de déficit.
Comme ce qui s'est passé en Grèce, au Portugal, en Italie, en Espagne. Vous voulez répondre une seconde?
Oui, non, mais rapidement, parce que je voudrais l'avis des gérants.
C'est une catastrophe d'avoir 3 000 milliards d'épargne qui ne sont investis que dans l'immobilier et des dettes. On a parlé des États-Unis. Hein. Aux États-Unis, on est à 4%.
On n'est que sur le premier sujet.
Et l'épargne est investie dans les entreprises. Donc de dire qu'il y en a trop, moi je pense qu'il n'y en a pas trop, elle est juste mal investie.
Oui, alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Encore une fois, les pays d'Europe du Nord, ils ne sont pas solidaires de nous, ils ne viendront pas à notre secours et ils n'arrêtent pas de.
Bien sûr que c'est faux. Dans toutes les crises financières, on a fait le MES, on a fait tous les mécanismes. Quand il y a eu la Grèce, on a notre.
Oui, mais ils ont besoin de nous.
Ils
ont quand même demandé en échange de l'aide pour la Grèce, pour le Portugal, pour l'Italie et l'Espagne, des sacrifices que nous, on n'est pas prêt à faire.
Et quand on a été récessif, et c'est pour ça, parce que.
Oui, mais ils en sont sortis, tout va bien.
Parce que le bilan de récession a été fait suite. Non. Parce qu'il y a eu ce bilan de récession en disant en deux ans vous devez faire telle ou telle coupe et que ça a été récessif, c'est pour ça qu'à la crise Covid, tous les États sont mis d'accord pour ne pas être dans cette situation.
L'Espagne va bien.
Non, mais c'est pas grave, vous ne pouvez pas dire ça quand on sait ce que les gens ont vécu à cette époque-là. C'est facile.
On a eu une période. Mais c'est logique.
En Grèce, vous deviez choisir et tirer au sort. Non, mais en Grèce, il faut être quand même très concret. En Grèce, vous deviez tirer au sort pour avoir votre traitement contre le cancer. Au Portugal, les gens étaient baissés de 30% du jour au lendemain.
Il y a un moment, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Ce qu'on est en train de dire. C'est qu'il y a un moment.
Mais les États-Unis sont aussi très endettés.
Mais ce sont
etc.
les États-Unis, on ne peut pas comparer la France avec les États-Unis.
C'est par rapport au dollar.
Très rapidement, on passe au deuxième sujet. Deux éléments. Effectivement, quand vous êtes en déficit de votre balance des paiements courants, comme vous ne vendez pas assez, vous vendez concrètement, on a perdu la maîtrise de notre patrimoine. Notre bourse est détenue par des étrangers, notre dette publique est détenue par des étrangers. Nous sommes le pays au monde dont l'immobilier est le plus détenu par des étrangers. Ce qui veut dire concrètement que tous ces avoirs que les étrangers ont sur nous, nous sommes le pays, après les États-Unis, qui a le voir extérieur net le plus négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la génération d'après, quand elle va travailler, il y a toute une partie de son travail qui partira pour payer la retraite des Norvégiens.
C'est
la retraite...
D'ailleurs, qu'elle n'a pas envie de bosser.
Et ça, bon, non, je ne sais pas. Bon, je sais
et
pas
si elle a conscience de ça.
Et, elle a raison. Et sur les États-Unis, deuxième remarque sur les États-Unis, les États-Unis sont dans la même situation. Et quand vous regardez.
Vous alliez dire les situations. Les États-Unis sont dans la même.
Aussi.
J'ai eu peur.
Qui est le plus détenu au monde, avec comme conséquence que quand vous regardez la campagne électorale, il commence à y avoir des gens qui disent. Vous savez, c'est le tweet de Trump que je cite assez souvent. Quand on lui dit, vous savez, les automobiles sont fabriquées par les Allemands et les hôtels de New York qui sont détenus par les Japonais, il avait fait un tweet de la subtilité qu'on lui connaît en disant, si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945, nous sommes prêts à repasser le couvert. Sauf que les Allemands et les Japonais, effectivement, ils ont... hélas, conduit entre 1920 et 1945 une politique qui était une politique monstrueuse, et maintenant ils ont une autre forme de politique qui s'appelle une politique d'épargne. Ça consiste à épargner pour acheter à l'étranger et pour détenir effectivement les avoirs qui vous permettront de vivre dans la situation où votre population est en train de vieillir.